l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Je suis ravie de vous retrouver pour la première de la nouvelle saison de Filmez-moi sur Jet, la radio indestructible, toujours curieuse et audacieuse. On continuera à vous parler cinéma dans tous ses états, avec ceux qui le font, l'écrivent, le soutiennent, ceux qui sont tombés dans sa marmite à grand bouillonnement, ceux et celles aux multiples talents, visibles ou non, et toutes, tous essentiels. Alors pour ne pas changer les bonnes habitudes, nous parlerons de films coup de cœur, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes, et aujourd'hui nous parlerons réalisation et casting avec notre invitée Sophie Razavi, qui nous présentera aussi quelques films de son choix. Sophie, je suis ravie de t'accueillir dans Filmez-moi. Bienvenue à toi. Commençons par un film que j'ai mis dans mon petit panier coup de cœur de cette rentrée, après ça. Sont chanteurs, compositeurs palestiniens, figure de proue du rock indépendant arabe. C'est un des sons du film Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne, mon coup de cœur de septembre. Alors c'est un film du réalisateur Skandar Kopti, qui est aussi acteur et auteur. Skandar Kopti, il vit en Israël, où sa famille est exilée depuis la Nakba du peuple palestinien en 1948. Il a aussi réalisé en 2009 le film Ajami, nommé au César et qui a obtenu la mention spéciale de la Caméra d'Or au Festival de Cannes. Chronique d'Haïfa a obtenu le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise en 2024. Alors, le réalisateur, il a choisi de croiser l'histoire de deux familles vivant à Haïfa, qui est le plus grand port d'Israël. Et la ville d'Haïfa a longtemps été présentée comme un modèle de vivre ensemble entre juifs et palestiniens. Mais les parcours de 5 membres d'une famille d'Haïfa aujourd'hui présentent une réalité beaucoup plus complexe. Donc il montre de manière éclatée, dans un récit non chronologique, la pression sociale que portent les femmes, qu'elles soient juives ou arabes. Alors on y voit Shirley, hôtesse de l'air, tombée enceinte de Rami, qui est palestinien. Et la sœur de Shirley ne peut pas concevoir une union entre sa sœur et un Palestinien. Et elle fait tout pour la convaincre d'avorter. Elle se laisse embrigader par une association de médecins qui partent en croisade contre les Arabes palestiniens et vont jusqu'à pratiquer des avortements sur des femmes juives portant des enfants arabes en faisant croire que leur grossesse ne peut pas être menée à terme. Ils pratiquent la manipulation et le mensonge comme arme pour arriver à leur but ultime, préserver la pureté d'Israël. Alors cette approche sectaire, raciste, portant une volonté de faire le bien par le mal, au nom d'un intérêt supérieur messianique, résonne encore terriblement aujourd'hui et de manière encore plus crue à l'heure du génocide et de la colonisation de Gaza et de la Cisjordanie qui s'accélère, mise en œuvre dans une visée messianique mortifère. Donc Shirley, cette femme, est victime de ce système discriminant, bien rodé. Elle est broyée par cette machine qui lui interdit tout libre arbitre. Et puis, un autre personnage de femme essentielle dans le film, c'est Fifi, qui est la sœur de Rami. Alors, ils appartiennent à la bourgeoisie palestinienne. Le père est un assureur au bord de la faillite. La mère, elle est obsédée par le statut social et les apparences. Et elle est très heureuse de marier sa fille aînée. Quant à la cadette, Fifi, elle a 25 ans. Elle rêve de s'émanciper du patriarcat. Elle ment, elle cache des aspects de sa vie et d'elle-même. Alors, on oscille entre conflits générationnels et tabous dans une société où la violence peut surgir à tout moment, à pas feutrer, malgré les apparences. On y voit aussi, dans des scènes quasi documentaires, tournées dans une école maternelle, comment les graines d'un patriotisme exacerbé et de la peur de l'autre, de la défense inconditionnelle de la patrie à des fins messianiques, sont semées dès le plus jeune âge. Le film, il a été tourné en 2022, avant les attaques du 7 octobre, avant le déclenchement de la guerre et le génocide. Et c'est avec subtilité et élégance que Skandar Kopti dépeint une société à travers les yeux de femmes, dont il dit que ce sont elles qui souffrent le plus, car elles sont opprimées politiquement, socialement et culturellement. Ce sont elles qui subissent le plus ce système, en fin de compte. Il dit également que l'émancipation des femmes est la condition d'une vraie libération. Et son propos, il est magistralement illustré par la scène finale que je vous laisserai bien sûr découvrir. Et ce qui rend aussi le film assez exceptionnel, c'est le casting, composé d'acteurs et d'actrices non professionnels et qui donne au film, au personnage, une réelle authenticité. Alors, le réalisateur, il a sélectionné des personnes pour jouer en fonction de leur point commun avec les personnages. Un vrai médecin, une vraie infirmière. Ils ont travaillé en amont pendant un an dans un atelier où ils se sont imprégnés de l'histoire et de la vie des personnages pour qu'ils les considèrent comme des prolongements de leur propre personnalité. Et ils réagissent spontanément lors du tournage sans avoir lu le scénario. Le film, il a été tourné avec deux caméras portées qui suivaient les acteurs et les actrices au plus près et donc qui capturaient les émotions au fur et à mesure qu'elles se produisaient, comme dans un documentaire finalement. Et c'est bluffant de vérité. Donc, allez le voir dans vos salles de cinéma préférées. Sophie, est-ce que tu as vu le film ? Est-ce que tu en as entendu parler ?
J'ai hésité à aller le voir hier soir, mais d'accord. Je suis restée chez moi à regarder un DVD de la médiathèque.
Ah, ben voilà, il y a tellement de choix, hein, finalement, on ne peut pas tout faire. Alors, j'ai une petite question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà casté des non-professionnels ?
Alors, j'ai casté des non-professionnels pour un... J'étais assistante chargée de casting pour le long-métrage de Robin Campillo, L'île rouge. Oui. Et le rôle principal était un enfant. Et c'était l'enfant qui représentait l'enfance du réalisateur. Donc, il fallait trouver un enfant qui lui parle, un enfant qui serait né dans les années 60 et un enfant qui aurait grandi à Madagascar. Il n'arrivait pas à le trouver à Paris. Okay. Et il cherchait quelqu'un qui avait l'habitude de vivre un peu plus dans la nature. Donc, il avait étendu la recherche de casting en Pays de la Loire. Et c'est ma collègue qui l'avait trouvé, du coup, à Saint-Nazaire. Donc, en fait, dès qu'on caste notamment des enfants, oui. Ben, c'est forcément des non-professionnels.
Oui, voilà. Oui. C'est intéressant, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, finalement, qui...
Oui, puis ça nous demande, en tout cas, dans notre travail, d'être sûr de bien border l'exercice du casting, parce qu'on va sûrement être les premières personnes qui vont les faire jouer avec une caméra. Et donc, du coup, il faut être sûr qu'ils vont passer un bon moment, qu'ils comprennent cette règle du jeu, qu'ils se sentent à l'aise, et en même temps, de faire émerger en eux ce que nous, on est les premiers à voir et à sentir de potentiel, quoi.
Ouais. Et quand c'est des enfants, justement, est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique ou est-ce qu'il y a l'obligation d'avoir les parents sur le tournage ou comment ça se passe? Ou c'est un contrat, j'imagine, qui est passé avec les parents?
Sur le tournage.
Le tournage, oui.
Alors, sur les tournages des enfants, ils sont encadrés donc par la loi. On fait des demandes d'autorisation de travail des enfants, parce qu'on normalement ne fait pas travailler un enfant. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est encadré en termes d'horaire, de temps de travail. En effet, il y a un responsable de l'enfant sur le plateau. Il peut y avoir des coachs aussi d'enfants sur le plateau. Et puis, on essaie surtout de garantir, en tout cas nous, à la mise en scène, un espace de travail un peu de sécurité, de calme et de concentration. Mmh. Moi, je m'amuse souvent à dire à mes camarades techniciens qu'il en va des enfants comme des animaux. C'est-à-dire que, en fait, il vaut mieux pas trop leur parler, vaut mieux surtout pas les toucher et de vraiment leur donner un espace de concentration. Et au final, ce serait pareil pour tous les comédiens, mais
ouais.
Voilà.
Oui, ça commence peut-être avec ça, finalement.
Ça commence avec ça.
Des choses qu'on peut appliquer à d'autres aussi. Alors, une autre question, est-ce que tu as travaillé déjà avec un réalisateur qui utilise cette forme de direction d'acteur, comme je l'ai décrite là dans ce film ? C'est-à-dire qu'ils vont réagir spontanément sans avoir forcément lu le scénario. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec cette technique?
Alors, ça m'est déjà arrivé, notamment, je pense, quand je suis chargée de figuration ou assistante aux chargées de figuration. Donc, les figurants, ils sont là pour donner du corps à une scène, mais pas forcément pour jouer. Alors, il arrive que des réalisateurs, parce que, en fait, dans la scène, dans le décor ou dans le visage d'un figurant, il a envie de le faire jouer. Mmh. Et donc, du coup, il va l'emmener comme ça à inventer quelque chose à l'intérieur de la scène, pour le coup. Et donc, à ce moment-là, on regarde un petit miracle se faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais vraiment joué, qui est là des fois peut-être pour la première fois sur un plateau, se prend au jeu, se prend à rêver et se rappelle qu'il a été un enfant et qu'il a joué à des jeux et qu'il s'est inventé des vies, quoi.
C'est jouer, voilà, ça a quand même un sens. Le sens premier, c'est s'amuser aussi, donc forcément. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans Film et moi, en compagnie de Sophie Razavi, réalisatrice et chargée de casting. Explorons maintenant les choix de mon invité avec un film que vous reconnaîtrez peut-être après ça.
I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She can look this wide world over, but she'll never find a sweet man.
Alors Sophie, est-ce que tu as reconnu? On a un peu triché.
Oui, on a un peu triché. Je t'ai demandé confirmation qui c'est bien du goût de la cerise d'Abbas Kiarostami.
Oui, tout à fait. Donc c'est l'unique son qu'on entend dans le film du réalisateur iranien Abbas Kiarostami, le goût de la cerise. C'est la musique du générique de fin. fait, du film. Donc, Le goût de la cerise, il a été écrit, réalisé, produit, monté par Kiarostami. Il est sorti en 1997 et il a reçu la même année la Palme d'Or à Cannes. Alors, c'est un film à la fois simple et complexe. Simple, de par son intrigue. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a décidé de se suicider et cherche quelqu'un pour l'aider. C'est assez simple aussi par son réalisme. Il y a une caméra utilisée qui est plaquée et qui filme les visages sans aucun artifice. Donc le film, il ne renchérit pas sur les péripéties, il n'accumule pas les scènes choc. Et c'est plutôt, il s'agit plutôt de la construction d'un échange avec le spectateur. Mais il est à la fois complexe, complexe par sa technique. Parce que pendant le tournage, les acteurs, la plupart non professionnels, ne se sont jamais vus. Et ils parlaient face à une caméra dirigée par Kiarostami. Donc il leur posait des questions auxquelles ils lui répondaient, tout en faisant progresser le scénario. Et c'est vraiment le choix de montage, en fait, qui a construit véritablement ce film. Il est aussi complexe par son approche philosophique. Parce que c'est en quelque sorte un film sur une fable, finalement, sur le sens de la vie, de la liberté, sur l'opposition entre les forces de vie et de mort. Et les frontières entre la fiction et la non-fiction sont aussi assez floues. Alors, c'est vrai que la question de la représentation de la réalité était au cœur du travail de Abbas Kiarostami, qui est disparu en 2016. Et c'est peut-être lié au fait qu'il était aussi peintre, photographe et poète. Alors Sophie, quand est-ce que tu as vu ce film ?
J'ai vu ce film. Donc, j'ai grandi à la campagne dans une famille qui n'utilisait pas du tout l'art comme manière de vivre forcément au quotidien, un petit peu la poésie, la littérature. Et quand je suis partie faire mes études à Toulouse, j'ai découvert ce que c'était une salle de cinéma. Et j'y allais compulsivement pour aller voir des films iraniens. Parce que je suis d'origine iranienne et que cette langue me manquait. Et donc, je me suis.
Tu l'as parlé à la maison ?
Pas beaucoup. Ouais. Mon père n'a pas trop voulu nous l'apprendre. J'avais ma famille qui venait de temps en temps. Et donc, du coup, je suis devenue cinéphile. D'abord parce que je voulais entendre cette langue. Donc, et du coup, ensuite, le réseau des médiathèques a fait que je suis allée chercher d'autres films de cinéastes iraniens, dont le cinéma d'Abbas Kiarostami. Donc, je dirais vers 17 ans. Quoi.
D'accord. Ah oui, d'accord. Et en quoi il t'a marqué, ce film ? Parce que voilà, je trouve qu'à 17 ans, c'est quand même pas un film évident, quoi. Hein ?
Alors, il m'a marqué pour deux raisons. Moi, je venais en effet donc plus de la littérature et j'avais une grande passion pour la philosophie. Et voilà. J'avais jamais vu une œuvre de cinéma qui était capable de pouvoir avoir un discours philosophique sur la vie à ce point-là. Et d'une manière aussi simple que, en effet, cet homme a un seul problème, et il va rencontrer une galerie de personnages et ça va permettre de poser une question morale à la fois aux personnages mais aussi aux personnes qui vont regarder le film. Ouais. Et tout d'un coup, l'outil du cinéma m'a intéressée en me disant que tout le monde avait compris l'enjeu philosophique, quand bien même il lisait ou non de la philosophie ou de la littérature.
Alors pourquoi tu n'as pas choisi d'autres films de Kiarostami comme « Et la vie continue »,« Au travers des oliviers » ou « La maison de mon ami » ou il y a eu « Le vent nous emportera » aussi, qui a eu le prix du jury à Venise en 1999. Je ne sais pas si tu les as.
Je les ai tous vus parce que du coup, j'ai regardé ensuite toute sa filmographie. Je trouve que ce que j'aime beaucoup dans le goût de la cerise, c'est vraiment sa simplicité. C'était que ce n'était pas encore une histoire d'amour. Ça racontait pas une histoire d'amour, ça racontait vraiment une question de vie ou de mort. Et vraiment, c'est ce qui m'avait le plus marqué, de me dire que vraiment, on pouvait résoudre des questions aussi fortes que pourquoi on vit et pourquoi on veut mourir dans un film. Autre chose, je trouve aussi, que représente ce film, c'est il y a eu l'exposition à Pompidou sur Kiarostami. Quand on entrait dans la salle d'exposition, il y avait cette voiture. Et c'est cette capacité qu'a des fois le cinéma iranien et les personnes aussi en Iran à trouver, en fait, malgré la censure, une manière de faire un art avec si peu de choses que je trouve très fort dans ce film et qui représente pour moi beaucoup de choses de leçons que pourrait nous donner pour le coup le peuple iranien sur la manière de faire de l'art et de pas en faire des caisses.
Ouais, c'est le cas de le dire.
Et d'aller pourtant chercher la poésie ouais. dans un endroit ouais. aussi simple qu'une ouais. caméra dans une ouais. voiture qui circule sur une route de poussière.
Ouais, c'est une forme de résistance, hein. Ouais, bien évidemment. Il y a eu un autre film comme ça où il y avait une caméra embarquée. C'est pas Taxi.
Bon, il y en a eu plein. Il y a eu Taxi Téhéran, mais je pense que il n'y a jamais eu autant de. Enfin, il y a beaucoup de véhicules dans les films en Iran parce qu'en fait, c'est un espace qui est un espace privé. La voiture. Et donc, en fait, c'est le seul espace où on peut filmer l'extérieur sans avoir le besoin de demander une autorisation de tournage. Parce que l'habitacle de la voiture, c'est privé.
C'est privé, donc on fait ce qu'on veut, a priori. Quels sont les autres réalisateurs iraniens que tu apprécies? Il y en a tellement. C'est dur aussi comme question. Ou je ne sais pas, des films que tu as vus récemment, de réalisateurs iraniens, et qui t'ont plu ou pas d'ailleurs.
Bah, Les graines du figuier sauvage, oui. Je l'ai quand même trouvé quand même assez réussi. Est-ce que j'ai d'autres films là qui me viennent en tête? Bah, Panay, forcément, je vais envie d'aller voir à chaque fois tous ces films. J'essaie de...
Qui va sortir là. Hein,
oui, dernier. On a hâte. Oui, et qui potentiellement va représenter la France aux Oscars, ce qui me pose des questions.
Ah oui? Oui, bah, c'est une question de production.
C'est une question de production,
bah oui.
Ouais.
Oui, voilà.
Mais bon, j'espère que s'il gagne, ce sera en hommage à la fierté aussi du peuple iranien.
Bien sûr, il faudrait. Et c'est ça, c'est le problème de cloisonner avec des frontières, des arts qui n'en ont pas de frontières au final. Continuons à explorer les choix de notre invité avec... ça.
It's like a rumble from the core of the earth.
Je l'ai pas trouvé.
Bam. And then it shrinks. Probably 6,000 years old.
A hole?
Yes. Drilled into her head to release bad spirits.
Sophie, tu as reconnu, c'est facile en fait.
Oui, celui-là était facile parce que le film, c'est tout autour de ce son-là. Donc, exactement. C'est Memoria d'Apichatpong Veerasethakul.
Oh, oui, c'est ça. Donc, c'est effectivement le trailer du film du réalisateur thaïlandais. Il est sorti en 2021, ce film. Il a obtenu le prix du jury au Festival de Cannes la même année, ex aequo avec Le genou d'Aed de Nadav Lapide. Alors, c'est l'histoire de Jessica, incarnée par l'inclassable et l'hypnotique Tilda Swinton, une cultivatrice d'orchidées écossaises qui rend visite à sa sœur hospitalisée à Bogota. Elle est réveillée une nuit par un bruit sourd et inquiétant qu'elle réentend les jours suivants à plusieurs reprises. Et ce bruit devient sa hantise, son obsession. Et il commence alors une quête pour comprendre d'où vient ce bruit inquiétant. Elle veut savoir si elle est la seule à l'entendre, et si elle est en train de sombrer dans la folie. Donc elle avance à tâtons tout au long du film, comme une somnambule, à la recherche de l'origine de la mystérieuse détonation. Un peu comme une âme en lévitation. Il y a même des moments où elle est statique, voilà, comme si on avait fait arrêt sur image, elle s'arrête. C'est assez impressionnant. Sur son chemin, Jessica rencontre une archéologue, Agnès, interprétée par la sublime Jeanne Balibar, qui est responsable de fouilles sur le chantier d'un tunnel sous la cordillère des Andes. Elle rencontre aussi un jeune ingénieur du son et musicien qui l'aide à reproduire ce son au plus près. Et elle rencontre aussi un pêcheur nommé Hernan dans un petit village au milieu de la forêt. Et ce pêcheur, il imprime dans son corps toutes les sensations vécues au jour le jour, mais il ne se souvient pas de ses rêves et il a perdu ses souvenirs, beaucoup de ses souvenirs. Et Jessica, elle est capable de lire dans les souvenirs d'Hernan et elle réveille en lui un épisode traumatique comme si elle était une antenne relais de son disque dur. C'est ce qu'il lui dit à un moment. Donc elle vit un espèce de dépaysement spirituel assez radical. Alors dans ce film, les corps, ils ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas. Et dans ce récit, c'est un récit d'exil finalement et de souffrance. Et donc Jessica, elle demeure assez désespérément solitaire. La scène finale, hallucinatoire, nous donne des clés sur sa quête. Alors la mise en scène, elle est limpide et en fait, elle est faite d'une juxtaposition de plans fixes de plusieurs minutes et sur lesquels Tilda Swinton apparaît. Donc elle apparaît sur tous les plans. Et la composition de chaque plan permet de détailler avec soin le rapport que les personnages entretiennent finalement avec le monde qui les entoure. Donc, Apit Chapong Wirasethakul est le cinéaste de la fixité, finalement. Par exemple, celle des dormeurs qui adoptent la position du mort, Hernan, dans une des scènes finales. Celle des nuages dans le ciel. Et ça nous invite finalement peut-être à l'alanguissement, à la contemplation, c'est très contemplatif, et à la rêverie. Alors, on pense peut-être aussi au cinéma de Night Shyamalan de par son aspect fantastique et assez mystique et onirique aussi. Alors, c'est un film déroutant. Il se détache aussi des autres films de réalisateurs comme Blissfully Yours ou de Tropical Malady parce qu'il est moins sensuel, il est peut-être plus désespéré finalement. Alors, Sophie, pourquoi ce choix ?
Alors, je ne le vois pas comme un film désespéré dans sa filmographie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Apit Chapong, c'est vraiment la dimension spirituelle. C'est-à-dire que, alors, il dit même que si on s'endort devant ses films, c'est très bien.
C'est voulu.
Et donc, en fait, exactement. Donc, lui, ce qu'il va chercher, c'est pas du côté de la rationalité, oui, d'un discours, c'est vraiment de nous faire vivre une expérience sensorielle. Et je trouve que dans Memoria, il pousse les curseurs. J'ai été fière de m'endormir pendant le film en me disant que j'ai réussi ce qu'il a voulu.
Au bout de combien de temps tu t'es endormie
La séquence de dîner, donc j'ai quand même bien tenu dîner comme
avec
ça
sa soeur,
avec sa sœur. Donc il y a peut-être celle en plus où ça parle le plus. Donc je me suis dit, bon là, du coup, c'est pas le moment la plus spirituel, je peux m'endormir. Et donc, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film. C'est pour ça que je vois moins le côté Shyamalan forcément que toi. Mmh. Et voilà. Et donc, plus il avance, je trouve, dans son cinéma, et plus il va chercher ça chez le spectateur de faire monter un peu le niveau de conscience qu'on a du monde à travers nos sens, que ce soit donc visuel. Donc, prends le temps de regarder un plan, de faire circuler ton regard et d'être baladé par ce qui s'y passe, la lumière, les mouvements des corps, et du coup aussi forcément par ce son. J'adore le cinéma qui me permet comme ça tout d'un coup d'être là en présence avec mon corps. Là, je suis allée voir Sirat le week-end dernier d'Olivier Latch et là, typiquement, c'est pareil. C'est-à-dire, il nous fait croire au début qu'il y a une histoire narrative et en fait, à la fin, non. L'important, ça va être l'expérience de notre corps de spectateur face à un film. Et donc, c'est ce qui m'a le plus plu dans le cinéma et dans ce film-là de Memoria. C'est l'éveil spirituel de ce personnage et nous-mêmes, en fait, l'espèce d'entrée comme ça dans des niveaux de plus en plus aigu de perception avec le film. Là, j'ai revu Cemetery of Splendor où en fait la présence d'esprit, de démon, de déesse, ça circule au même titre que d'aller au supermarché. Et en fait, dans une même journée, on pourrait croiser un esprit et aller acheter du lait. Et en fait, tout ça est tout à fait normal pour les personnages. Là, dans Memoria, c'est une personne qui découvre ça. Oui. Alors que d'habitude, dans ses autres films, c'est plutôt un bain de culture, bain de la culture thaïlandaise où ça circule. Oui. C'est la vie prosaïque et la vie spirituelle de manière complètement simple.
Oui. Tout en parlant quand même de la réalité du contexte. Parce qu'il a quand même un engagement aussi sur son pays, la Thaïlande, sur les révoltes populaires, la guérilla. Après, de façon contournée, bien évidemment, pour échapper à la censure, il garde bien sûr ce côté assez mystique, spirituel. Mais en même temps, il nous montre des aspects de la société thaïlandaise, un peu embourbée aussi dans certaines choses, certains tabous. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 dans Film et moi, en compagnie de Sophie Razavi, réalisatrice. Continuons à explorer les choix de mon invité après ça. Alors Sophie, est-ce que tu as reconnu? Je t'ai aidée.
Oui, voilà, on s'est aidés mutuellement. Ouais. Donc là, on va parler du coup des filles d'Olfa de Kaoutar Bahania.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un des sons de la musique composée par Amine Bouafa pour le film Les filles d'Olfa de la réalisatrice tunisienne, donc Kaoutar Bahania, présenté à Cannes en 2023, où il a obtenu l'œil d'or. Donc, la réalisatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de reconstituer une histoire vraie qui a secoué la société tunisienne en 2016. Le film, il raconte la vie d'Olfa Amrouni, une Tunisienne et mère de quatre filles. Le film, au départ, devait être un documentaire. Mais Kaoutar Bahania a choisi un dispositif peu commun pour combler l'absence des deux filles aînées qui, selon les mots de Kaoutar Bahania, ont été dévorées par le loup. Elle convoque des actrices professionnelles qui vont reconstituer l'histoire de la famille en donnant la réplique à la vraie Olfa et à ses filles cadettes, Eya et Taïsir, encore présentes à ses côtés. Et ce dispositif de cinéma assez remarquable, il permet de lever le voile sur l'histoire d'Olfa et de ses filles, de la famille. Et les comédiennes, tout en sororité, vont les aider à la reconstitution de la mémoire, parfois traumatique, et à faire surgir l'origine de la violence et de la colère, la violence subie par les femmes, qui est transformée en actes de rébellion et de résistance. Ça peut être des actes artistiques ou religieux, parfois fatals. Donc le film, il dévoile la vie d'Olfa et de ses filles entre ombre et lumière, et aussi son rapport aux hommes. Il dévoile aussi sa ténacité et celle de ses filles face aux violences patriarcales. Ses filles d'ailleurs qui ne la ménagent pas, qui la critiquent dans ses choix d'éducation et qui sont assez intransigeantes aussi avec elle. Jusqu'à la dernière partie qui nous dévoile ce qui est réellement advenu aux filles d'Olfa disparues, avec des images réelles dans un moment bouleversant d'intensité. Et finalement, c'est de par ce dispositif assez audacieux que le film éblouit, sa grande maîtrise technique. Et de par la mise en lumière de cette mère courage en proie aux affres d'une société oppressante faite d'empêchement de la parole, ce huis clos intime, bouleversant, donne à voir au final l'histoire collective de nombreuses familles et en particulier de nombreuses jeunes filles et femmes. Alors, Olfa Amrouni avait rendu publique la radicalisation de ses filles en avril 2016. Elle avait dénoncé l'inaction des autorités tunisiennes. Elle dit qu'elle a même été empêchée de quitter le pays pour aller chercher ses filles en Libye par ses propres moyens. Mais le film ne traite pas seulement de la radicalisation. Il traite de la place des femmes dans cette société tunisienne et puis de formes d'oppression dont elles peuvent être victimes. Kaoutar Bahania a réalisé un film qui a été montré à Venise cette année, qui a remporté le Lion d'argent, The Voice of Hind Rajab, qui s'inspire des enregistrements des appels au secours d'une fillette gazaoui de 5 ans. Il n'y a pas encore de distributeur, mais ça ne saurait tarder. Donc Kaoutar Bahania, elle sait nous toucher en plein cœur, de par son cinéma, qu'elle assume, politique et engagée, et surtout fondamentalement au plus près des questionnements actuels de notre société. Elle nous dit « Pour moi, le cinéma est politique avant tout, quel que soit le sujet. Le cinéma, c'est un choix, c'est un regard. Le cinéma, c'est un sujet, mais pas que. C'est une écriture, c'est une forme, et tout ça, c'est politique. » Alors Sophie, pourquoi est-ce que tu as choisi Les filles d'Olfa ?
Pour la forme, parce que vraiment, j'ai trouvé que je n'avais jamais vu un film comme ça. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu... En fait, ce qu'elle raconte, Kaoutar, c'est que donc elle voit Olfa à la télévision, qu'elle la rencontre, qu'elle commence comme ça à faire des petites interviews avec elle, et qu'elle se rend compte que Olfa, cette femme, qui est certes une mère courage... Elle est un peu ambiguë. Et
elle a des travers.
Elle a quand même de sacrés travers. Exactement. Et notamment le travers de ne pas dire exactement la vérité. Et donc, elle dit, je vais créer un dispositif où ce n'est pas elle qui va me donner la vérité. Mais c'est par le dispositif, c'est-à-dire donc, on va mettre en scène des souvenirs. Les comédiennes vont les jouer. Les personnages réels, donc Olfa et ses filles, vont en discuter avec les comédiennes. Et on va filmer ces moments-là. Et surtout, surtout filmer ce que ça leur fait. Et en fait, c'est un film où la vérité ne circule pas dans ce que disent les gens ou ce que font les gens, mais dans la manière dont c'est regardé et dont on en parle. Oui. Et j'avais trouvé ça génial de me dire qu'en fait, voilà, la vérité, c'est pas tant dans les discours que dans les émotions qui circulent et qui nous trahissent entre les discours, devant des scènes, devant des choses qu'on fait ou des choses qu'on croit se rappeler. Et de se dire aussi que ben, en fait, la mémoire et ce que raconte Olfa de son parcours et de l'histoire de ses filles, les souvenirs, c'est toujours de la fiction et qu'il faut aller les interroger. Et c'est ça que j'avais trouvé hyper fort dans ce magnifique décor qui, je crois, était un ancien hôtel et où, du coup, comme ça, on part à la recherche de la vérité, de la sincérité surtout d'Olfa et de ses filles pour comprendre pourquoi les deux autres sont pas.
Tu partages l'avis de Kauter Banania quand elle dit que le cinéma est politique avant tout.
J'ai envie de dire que tout est politique. Donc l'art, forcément, l'est à juste titre. Et après, le cinéma est d'autant plus politique que c'est une forme de création qui est forcément collective. On ne peut jamais faire un film tout seul. Le cinéma, c'est aussi une capture du réel. Donc, c'est-à-dire qu'on capture quelque chose et qui veut dire capture, bah, il faut une éthique de la chasse. Et donc, c'est en ça qu'en effet, il est très, très politique comme art. Donc, tu dis que je suis réalisatrice, mais je suis surtout assistante réalisatrice. Oui. Et mon travail, c'est justement d'essayer de prendre soin du collectif et de faire en sorte qu'un film se passe dans des bonnes conditions. Et voilà, et donc autant le propos, le type de récit et la manière dont on va le faire, c'est tout un tas d'endroits où peut se loger le politique. Et c'est aussi ce que, du coup, la vague MeToo qui n'est toujours pas tombée, révélée. C'est-à-dire, c'est bien de faire de l'art, mais vaut mieux le faire justement dans les règles de l'art.
Ouais. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et Moi, l'émission mensuelle de cinéma, en compagnie de Sophie Razavi, assistante réalisatrice basée à Nantes. maintenant avec toi, Sophie, de ton travail dans le domaine du cinéma. Donc, tu es assistante réalisatrice et aussi en charge de casting. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce métier de cinéma ? Quel est ton parcours ?
J'avais fait des études de sciences politiques. Je me suis retrouvée à travailler dans l'éducation nationale dans la lutte contre le décrochage scolaire. Et dans ce cadre-là, je suis arrivée à Bellevue, Nantes. Et j'ai rencontré une association qui faisait de l'éducation à l'image et qui trouvait que je m'entendais bien avec les jeunes et qui trouvait que ça se passait bien, qui m'a proposé de travailler. Moi, je venais de la radio un petit peu. Et du coup, ils m'ont dit, on va t'apprendre un petit peu le cinéma. Et un long métrage est arrivé sur le quartier, Compagnon. Ingrid Chikaoui, que tu as déjà reçu, me connaissait.
On a reçu ici, oui.
Et a dit, si vous cherchez quelqu'un pour faire du casting sauvage, cette jeune fille travaille dans le quartier, elle n'aura pas peur d'aller parler aux habitants et aux habitantes. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur ce premier long métrage. Et ensuite, Ingrid m'a proposé d'être assistante réalisatrice sur son court métrage Trois grains de gros sel.
Trois grains de gros sel, dont on a parlé également. Très, très beau court métrage. Alors, c'était donc le premier film sur lequel tu as travaillé ?
Oui, en tant que première assistante réalisatrice.
Première assistante réalisatrice. Ça consiste en quoi, ce travail de première assistante réalisatrice ?
Oui, alors déjà, le nom est bizarre, c'est-à-dire qu'un réalisateur, je n'assiste pas un réalisateur, il fait son travail qu'il doit faire. On va dire que c'est soit assister le film, à ce moment-là, tout le monde assiste le film, même l'ingé son, c'est un assistant du film, et sinon, on va appeler ça un directeuriste de plateau. C'est-à-dire que le but étant de faire en sorte que le film ait les meilleures conditions pour être tourné et être sûr que tout le monde sache ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire qu'en amont du film, on va préparer ce qu'on appelle le plan de travail, c'est le calendrier du tournage, en ayant conscience des conditions, bien sûr, de production du film, du droit du travail. Mm-hmm. Et puis, on va travailler à faire en sorte que toutes les scènes, tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur des scènes ou les enjeux soient discutés. Donc, créer tous ces temps de discussion avec les différents chefs de poste, la déco, les costumes, pour être sûr que tout le monde est prêt le jour où il faut tourner et que tous les problèmes, on ait des idées pour les résoudre.
Donc médiatrice, en fait, en quelque sorte.
Oui, c'est comme un travail de médiation. Et puis, c'est avoir surtout une quantité d'informations dans la tête et être sûr de les partager à toutes les personnes pour que tout le monde puisse ensuite être libre de faire le meilleur travail et comprenne tous les enjeux de chacun. Ouais.
Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu t'imprègnes de la visée du réalisateur. Enfin,
il faut s'imprégner à la fois du scénario, c'est-à-dire vraiment le dépouiller, donc lire tous les détails qu'il a écrits, mais aussi penser aux détails qui ont été oubliés d'écrire. Par exemple, si le personnage t'est blessé dans la scène d'avant, se dire que dans la scène d'après, il y a aussi la cicatrice qui va apparaître. Donc, c'est penser comme ça à tous
ces
petits détails.
Sauf si c'est elliptique.
Si c'est elliptique, mais à ce moment-là, je me pose la question. Je vais mettre cicatrice, point d'interrogation.
10 ans après.
Sujet à discuter avant le tournage. Et puis, bien sûr, c'est d'échanger avec le réalisateur ou la réalisatrice pour comprendre quel est le film qu'il veut faire, quelles sont les scènes qui sont importantes pour lui, comment est-ce qu'il a envie de les filmer, pour que du coup, ensuite, on ait les bonnes conditions pour le faire et que son style puisse exister aussi au moment du tournage. Je vais souvent demander... quelle est la scène qui te stresse le plus ? Celle-là, je vais faire en sorte que dans le calendrier du plan de travail, de tournage, on va avoir le temps de la faire, par exemple. Donc, c'est un peu comprendre comment il veut faire son film, quels sont les endroits où il veut mettre un maximum de choses et organiser pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Après, tous ces temps de préparation permettent justement de connecter petit à petit avec toutes les dimensions du film qu'il a dans sa tête et de pouvoir aussi les lui rappeler. C'est-à-dire, c'est vraiment aussi un temps où il va parler de toutes ses intentions dans des scènes et l'enjeu, ça peut être aussi pour moi ou le ou la script, d'être la personne si à un moment donné il est perdu une journée parce qu'il est fatigué, de pouvoir lui rappeler un peu deux, trois enjeux dont on avait discuté.
S'appuyer sur toi, sa deuxième mémoire, son deuxième cerveau.
Son deuxième cerveau,
Son deuxième cerveau du réel. Bon, ok. D'accord. Et est-ce que tu n'as pas eu envie, toi, de passer à la réalisation ? Tu as déjà réalisé des films, il me semble.
Alors, c'est marrant parce que c'est un peu la question qu'on fait à tous les assistants réalisateurs et réalisatrices. C'est pas exact. Exactement le même métier. Oui. Moi, j'adore rebondir sur un film. J'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui vont croire en une histoire, en être obsédées, tenir une écriture pendant plusieurs années. Alors que moi, ce que j'adore, c'est qu'on me lise une histoire, d'y voir tous les potentiels et de devenir un soldat, en fait. Voilà, pour ce projet-là. J'ai déjà réalisé, donc j'ai fait un court-métrage pour apprendre un peu l'exercice. J'ai co-réalisé deux documentaires de commande sur l'histoire du quartier de Bellevue.
Qui s'appelle ?
qui s'appelle, alors il y avait Mémoire des lauriers et l'autre c'était On a toujours dit Place centrale, que j'ai co-réalisé avec Karim Bouadjer, mm-hmm. dans le cadre d'une association qui s'appelle Café Prod.
Café Prod, il y a des projets dans Café Prod ?
On a toujours comme ça des films de commande sur lesquels on va travailler. Là je sais que Karim avait travaillé sur la question des pratiques culturelles et de la consommation culturelle dans les quartiers populaires. On a hâte de voir le montage de son film.
Et le travail de casting alors ? Ça consiste donc, comment on fait pour repérer les acteurs, les figurants, on va dire peut-être, parce que les acteurs sont déjà connus. En général, ils ont un agent.
Moi, je suis assistante casting et chargée de figuration. Donc, le casting, donc on a les rôles. On connaît un petit peu, en tout cas dans les Pays de la Loire, on connaît un petit peu les comédiens et on va dire les personnes qui pourraient du coup, fonctionner avec le rôle que l'on cherche. On a aussi des bases de données de comédiens qui sont soit au bureau d'accueil de tournage, soit sur le réseau Film France Talent. Et sinon, pour la figuration, on fait passer des annonces, souvent dans la presse ou sur les réseaux. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous répondent, mais des fois, on se retrouve à devoir chercher des profils spécifiques de type, là, je repense, l'automne dernier, on cherchait des pêcheurs à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Là, faut peut-être des fois aller un peu sur le terrain, aller à la rencontre des gens, déposer des annonces, essayer de les convaincre, ou même juste de leur dire « Est-ce que tu cherches du travail ?» Parce que c'est un travail, la figuration, c'est rémunéré. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier en tant qu'assistante réalisatrice ou chargée de figuration, c'est que le cinéma va m'amener, mais aussi en tant que spectatrice d'ailleurs, à rencontrer des univers où je ne serais jamais allée. Au printemps dernier, j'ai passé 5-6 jours à dormir dans un resto routier sur une nationale bretonne et à me réveiller tous les matins entourée de 200 routiers comme ça. Moi, je tournais de nuit, donc je me réveillais à 11h30, ils étaient à l'apéro. Moi, je me faufilais pour prendre un café et en même temps chercher des figurants. Et en fait, c'est ça que j'adore, en tout cas, dedans. Ce que fait le cinéma, c'est qu'en capturant le réel, il nous permet de connaître des dimensions dans lesquelles on ne va pas, et c'est normal. J'aime mon métier et d'être spectatrice de cinéma pour ça, pour voyager.
Alors, qu'est-ce que tu penses du recours à des comédiens non professionnels ? Est-ce que toi, tu fais une différence ou...
Alors, je ne fais pas de différence dans mon travail, dans le sens où pour moi, il faut qu'ils soient accueillis dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que l'exigence que ça demande d'être présent pour jouer alors qu'on est entouré d'une équipe de tournage qui a une caméra énorme face à nous à quelques centimètres de notre visage, ça demande, enfin en tout cas ça met comédiens professionnels ou non professionnels en des états de vulnérabilité, et ça pour le coup de faire attention à leur confort, à leur concentration, c'est quelque chose qui pour moi est important de la même manière que ce soit professionnel ou non professionnel.
C'est plus difficile avec les non professionnels sans doute d'obtenir ça.
Cette concentration de leur part, en tout cas cette abstraction, surtout, c'est de réussir à faire abstraction de ça. Alors oui, ça peut être plus difficile. Peut-être que ça demande aussi, du coup, d'envisager un peu différemment un plateau, de justement de pas mettre une caméra à 3 cm, mais d'utiliser une focale qui permet, du coup, de reculer un peu la caméra et de lui donner un espace un peu de respiration autour de lui. Ça demande beaucoup de pédagogie, mais ça, c'est une dimension que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est-à-dire d'essayer de traduire des intentions du réalisateur auprès de toute personne, technicien ou comédien, et de prendre le temps de leur expliquer un peu comment ça se passe, un plateau, comment on va tourner cette scène. Mais c'est quelque chose que je fais déjà avec les figurants. Donc en fait, un figurant, majoritairement, c'est des non-professionnels. Oui. Et ce qui est génial, c'est quand ça fait 6 semaines que tu tournes avec la même équipe et que tu es fatigué, le fait est que tous les jours, un figurant, il est nouveau et il arrive sur un plateau de tournage.
Il a une nouvelle énergie.
Et il a des étoiles plein les yeux.
C'est ça. Donc ça rebooste.
C'est ça qui est chouette avec un comédien non-professionnel, c'est que ils vont nous rappeler qu'on est en train de faire un exercice de magie et ils vont être complètement enthousiastes vis-à-vis de ça et nous rappeler qu'on fait un métier qui est quand même absolument enfantin et ludique.
On est dans le jeu.
Est de jouer, quoi. Puis de tricher. On passe notre temps à tricher, à créer des choses qui sont à moitié vraies, à moitié fausses.
Enfin, c'est ça, mensonge.
C'est ce que ça permet. Après, ça fait rafraîchir les scènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coller au scénario avec un comédien non professionnel. Il faut vraiment se dire qu'on est dans une situation, ne pas forcément essayer de leur faire le perroquet d'un scénario.
C'est peut-être le risque qu'ils récitent. C'est ce que me racontait Ingrid, d'ailleurs, avec les enfants qui avaient super bien appris leur scénario. Elle voulait absolument qu'ils s'en détachent un peu parce que ça perdait du naturel.
Oui, et du coup, coup, il faut, comme elle l'explique souvent Ingrid, donc il faut inventer des nouvelles choses, c'est-à-dire leur donner des nouvelles choses à faire, improviser avec eux et donc améliorer ou aller chercher à l'os quel est l'enjeu de la situation et tout ce que peut lui apporter du coup un comédien. Et des fois, je trouve que c'est pas que ça relève le niveau d'un scénario, mais du coup, ça oblige un réalisateur et toute l'équipe à aller
chercher ailleurs,
à aller ouvrir cette situation pour faire circuler des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avec un comédien qui te l'aurait fait en deux prises de manière propre et on serait passé à la suite, quoi. Il y a encore plus de magie et d'accident. Et c'est ça qui est le plus beau en tournage.
Des ruptures, des petits accidents, des accidents qui doivent être aussi très, très intéressantes. Alors Sophie, quels sont tes projets de cinéma ?
Là, je vais sûrement travailler comme chargée de figuration sur une série. Et sinon, j'attends avec impatience que des camarades avec qui j'ai travaillé, réalisateurs et réalisatrices, financent leur projet de long métrage en espérant être avec eux dans l'aventure.
Bon. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour ce précieux témoignage sur le métier d'assistante réalisatrice, qui n'assiste pas vraiment le réalisateur ou la réalisatrice uniquement, qui est quand même un rouage essentiel dans la fabrication des films. Et puis, tu reviens quand tu veux.
Ben, merci à toi pour cet espace et puis longue vie à Jet.
Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Films et moi, l'émission mensuelle sur et pour le cinéma. Cet automne, venez vous réchauffer devant les écrans de vos salles préférées, qui nous proposent encore de riches programmations événements en tout genre, qui ne pourront que vous plaire. J'en ai fait une petite sélection. À ne pas rater au 14A, le film Muganga, celui qui soigne, avec le magnifique et trop rare Isaac de Bankole et le talentueux Vincent McCain, l'histoire de Denis Mukwege, médecin congolais et futur Nobel de la, prix Nobel de la paix, qui a soigné des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République du Congo. Au 14A toujours, vous pourrez voir le dernier film du réalisateur iranien dont on a parlé tout à l'heure, Jafar Pani, Un simple accident. Et ce film nous éblouira pour sûr. Et puis on pourra aussi se replonger dans l'œuvre de Cervantes avec le biopic espagnol réalisé par Alejandro Amenábar, Cervantes avant Don Quichotte. Vous pourrez aussi replonger au 14A dans l'univers tendre de Sylvain Chaumet avec son dernier film Marcel et Monsieur Pagnol, hommage aux précurseurs du cinéma. Et ne manquez pas La petite dernière de Afzia Herzi, adopté du roman de Fatima Das et dont on reparlera très vite dans cette émission. Au 14A encore, du 7 au 12 octobre, ne manquez pas le retour de la Snif avec le 11 octobre, la nuit fantastique, et je pense qu'il va falloir très très vite prendre ses places tellement à chaque fois ça attire, c'est bondé avec une super ambiance. Au cinéma Concorde, il faudra aller soutenir la première édition du festival Trafic du 8 au 18 octobre. Le Concorde, Trimpo et le cinématographe ont eu la bonne idée de s'associer pour un festival de musique et de cinéma mêlant projections, ciné-concerts et tables rondes. Et le thème de la première édition est « Mortel ». Donc, il nous invite à faire de la mort un fil conducteur plein de vie. Avec en particulier la projection en sortie nationale de « Soundtrack to a coup d'État » de Johan Grimompres, un récit de la guerre froide où jazz, politique et décolonisation s'entremêlent. Il y aura aussi le film « Dead Man » de Jarmusch, les Blues Brothers qui reviendront, Phantom of Paradise. Il y aura aussi des films d'animation pour petits et grands. Le super documentaire Black Indians sur les Noirs de la Nouvelle-Orléans qui rend hommage aux esprits indiens de la Terre d'Amérique. Enfin bref, une programmation mortelle à réveiller un mort. Et la prog, elle est disponible sur le site de Trimpo et du Concorde. Au cinéma Saint-Paul, à Rezy, l'appel à projet pour le festival de court-métrage est ouvert. Il s'appelle « Montre ton cours ». Donc vous pouvez proposer votre film jusqu'au 15 mars pour l'édition 2026. Et vous pouvez voir en octobre les deux courts-métrages lauréats de l'édition 2025 de « Montre ton cours ». Au cinématographe, le samedi 12 octobre, vous pourrez rencontrer le réalisateur Nicolas Philibert pour échanger avec lui autour de ses derniers films « Sur l'Amadan », Averroès et Rosa Parks et La machine à écrire. Et plein d'autres riches programmations divertissantes, envoûtantes, résistantes, réjouissantes, éclairantes à découvrir dans les 35 salles du département. Merci Sophie encore d'avoir passé ce moment en notre compagnie et puis bon vent, bonne continuation à toi dans ce merveilleux domaine du cinéma. Et puis merci à Jérôme pour son accompagnement technique essentiel.
Avec plaisir.
Jérôme que l'on retrouvera pour le retour de la bande-son, émission autour de la musique de film dès la semaine prochaine, il me semble. Et donc c'est tous les lundis.
C'est
à 20h,
ça, c'est ça.
Sur Jet. Et puis, il me semble que tu vas ramener, t'as ramené dans les valises de tes vacances l'interview avec un réalisateur.
Oui, c'est le réalisateur Grégory Morin qui a réalisé donc, le film s'appelle Flush.
Okay.
Il a été récompensé au festival Fantasia de Montréal où j'étais cet été.
Où tu as eu la chance d'être cet été.
Et du coup, il sera en projection, ce film, au sein de la SNIF, donc durant la semaine du 7 au 12 octobre.
Ok, mais écoute, on écoutera ton émission avec joie. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau film et moi en direct tous les derniers mardis du mois ou en podcast sur le site de Jet.
Émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.